Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
J'appelle Vincent Tour, Dimitra Kaneloupoulou, Michel Attier et Rima Ayoubi donc pour la première table ronde.
Ok. Je vous propose de commencer. Donc on va démarrer cette journée avec une première table ronde donc qui est intitulée Immersion et mise en situation, qui va développer différents types donc d'immersion qui permettent à un sujet de vivre une expérience sensible et la manière dont ces expériences sensibles deviennent mémoire sensorielle. Donc pour explorer ces sujets, nous accueillons autour de la table quatre chercheuses et également à distance. Donc en direct depuis Lyon, nous avons la présence de Nadine Ravel. Bonjour Nadine. Vous êtes neurobiologiste du comportement, directrice de recherche CNRS, membre de l'équipe CMO, du codage à la mémoire olfactive du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, également responsable national du réseau thématique mémoire. On accueille également Michel Attier, bonjour Michel, donc, qui est architecte, doctorante en sciences de l'ingénierie et des systèmes, et donc doctorante ici au laboratoire, dans l'équipe créneau du laboratoire AAU. Et également Rima Ayoubi, qui est également architecte et aussi doctorante en sciences de l'ingénierie et des systèmes dans l'équipe créneau du laboratoire AAU. Et également Dimitra Kaneloupoulou, bonjour Dimitra, qui est architecte ingénieur, maître de conférence à l'ENSA Paris-Malaquais et chercheur dans l'équipe Cresson du laboratoire AAU. Et pour animer ces échanges, je serai accompagné de Vincent Tour, qui est docteur en sciences pour l'ingénieur, spécialité architecture, maître de conférence à Centrale Nantes et chercheur dans l'équipe créneau du laboratoire AAU. Alors, pour ouvrir les discussions et avant d'entrer dans les diverses expériences immersives, je vous propose d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, puisque finalement, le cerveau, c'est l'usine des perceptions. Et ce qui se passe donc quand un sujet est plongé dans un environnement sensoriel. Donc je me tourne vers vous, Nadine Ravel, avec une question en deux parties. Donc, première partie de la question, d'une part, quand on vit une situation, est-ce que vous pouvez nous décrire la manière dont notre cerveau va traiter les expériences sensorielles et comment ces différentes expériences sensorielles peuvent devenir mémoire? Donc première partie. Et deuxième partie de la question, c'est qu'une fois que cette mémoire est construite, comment est-ce que le cerveau va nous rappeler ces sensations lorsqu'on imagine un projet, comme par exemple le travail de conception de l'architecte qui peut mobiliser ses souvenirs sensoriels pour penser ces différents projets?
Alors, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment très, très contente de pouvoir participer à cette journée. Alors, ce que je vais essayer de vous décrire, je vais mettre un petit chrono et n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop longue. Oui, voilà, j'ai pris comme exemple pour vous faire comprendre comment notre cerveau appréhende les environnements que nous rencontrons. J'ai pris comme exemple la construction de la représentation de la maison de mon enfance. Donc, je vous ai mis entre ces deux photos qui sont la première chose à laquelle je pense quand je pense à cette maison. Je vous ai mis un schéma du cerveau pour vous montrer qu'en fait, le cerveau peut être considéré dans un premier temps, lorsqu'on est plongé dans un environnement, comme un ensemble de capteurs sensoriels. Et donc, à l'arrière du cerveau, par exemple, cette étoile jaune-là qui signale le cortex visuel primaire, c'est donc par là souvent que ça commence chez l'homme, c'est-à-dire qu'on commence par explorer visuellement l'environnement. Et puis ensuite, oui, j'aurais dû mettre des numéros parce que c'est pas moi qui montre, mais disons qu'on va avoir au milieu, l'étoile qui est tout à fait au milieu va se charger de tout ce qui est auditif, celle qui est immédiatement en dessous, plutôt ce qui est gustatif, celle qui est au-dessus à gauche, ce qui est olfactif, celle qui est tout en haut va s'occuper de tout ce qui concerne le toucher, et enfin celle qui est au milieu va considérer tout ce qui est la mémoire sensorielle motrice. Donc la maison de mon enfance, ça commence par des images, et si vous passez la diapositive suivante, on voit que tous les sens vont pouvoir être mis en action. Vous pouvez passer la suivante aussi, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Voilà. Donc tous les sens vont être mis en action lorsque je vais être immergée dans cette maison, c'est-à-dire que je vais avoir des stimulations visuelles, mais il y a aussi cette pendule et ces cris d'enfant et la voix de ma grand-mère qui me lit Le Petit Prince. Donc tout ça, ça contribue à stimuler ma perception auditive. C'est une maison où on ramasse beaucoup de fruits et où on fait beaucoup de confiture. Ma grand-mère cire beaucoup les meubles. Donc cette maison, c'est aussi des stimulations olfactives. Cette odeur, ce mélange d'odeurs de confiture et d'encaustique en fait. Et puis cette maison, c'est aussi des gens, bien sûr. C'est aussi cette main qui dit oui, ce sens du toucher qui est mis en jeu à plein d'endroits. Et aussi la mémoire de choses motrices. Par exemple, c'est là que j'ai appris à faire du vélo sans les roulettes. Donc vous voyez, un lieu, c'est vraiment un ensemble de stimulations multisensorielles. Ça, je pense que vous en êtes largement convaincus. Et au niveau du cerveau, si on passe à la diapositive suivante, on va rentrer juste parce qu'on en a un petit peu besoin pour que vous compreniez comment ça se passe, mais de manière très simple, rassurez-vous. Donc ces perceptions, ces sensations sensorielles sont d'abord traitées, donc comme je vous l'ai montré, par des aires sensorielles qui sont spécialisées. Ça va déclencher la circulation d'une énergie qui va être transmise petit à petit en montant, on pourrait dire, dans le cerveau à des aires qui sont multisensorielles et qui vont assembler ces perceptions entre elles pour finir finalement en termes d'encodage, donc pour la partie encodage de l'information, pour finir dans des zones de traitement de très haut niveau qui constituent ce qu'on appelle le système limbique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que il y a deux zones qui sont particulièrement importantes. C'est l'hippocampe, qui est un véritable hub d'information et un endroit où, bourré de connexions et d'associations hautement complexes, qui va donc recueillir tout ce qui est monté. Et il y a aussi une structure qui va être très importante, qui s'appelle l'amygdale, et qui va gérer toutes les émotions qui vont avoir été déclenchées chez l'individu par ses perceptions multisensorielles, et qui va en quelque sorte être responsable de signaler celles qui me plaisent, celles qui me déplaisent. Donc ça, c'est l'encodage. Et ensuite, l'information ne va pas rester stockée dans l'hippocampe. Elle va redescendre dans ses aires associatives, et voire même dans ses aires sensorielles, et elle va être complètement fragmentée. Donc on peut se demander comment on va faire pour pouvoir la retrouver. Et en fait, le fait de pouvoir la retrouver, c'est parce que des réseaux neuronaux se sont créés, où l'énergie circule préférentiellement, et que ces réseaux vont être très faciles à réactiver. Et ce qui est important aussi, c'est que l'hippocampe, finalement, rien n'est stocké dans l'hippocampe, mais c'est un petit peu le calepin d'adressage des mémoires. Lui, il sait où les choses sont stockées, et il va pouvoir finalement faire un aiguillage pour que quand une mémoire va être réactivée, elle puisse évoquer l'intégralité de ce qui était associé à cette mémoire. Et si on passe sur la diapositive suivante, on voit que même si je ne suis pas dans cette maison, l'odeur de la mirabelle, et si vous passez sur la diapo suivante, va suffire, par le biais de ces associations qui se sont créées dans mon cerveau, va suffire à réactiver la représentation de cette maison. Et je vais revenir. C'est un petit peu comme la Madeleine de Proust, je suis sûre que vous connaissez ce texte, et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que l'association s'est créée sous forme de réseaux de neurones qui se sont interconnectés, eh bien, il est très facile de rentrer dans une association. Alors ça, c'était pour répondre à votre première question, et peut-être que j'ai pas été assez claire, mais vous pourrez toujours me poser des questions. Pour répondre à la deuxième, je dirais que ce qui est très important, c'est que même si nous avons le même appareillage sensoriel, c'est-à-dire nous nous ressemblons beaucoup sur la présence de ces capteurs sensoriels et la manière dont notre cerveau fonctionne, nous avons façonné chacun individuellement notre cerveau de façon différente. Autrement dit, lorsque nous sommes plongés dans un environnement, quel qu'il soit, ce que moi je vais en percevoir et ce que vous allez en percevoir peut être complètement différent. Il va y avoir un poids qui peut être donné à telle ou telle chose. Et ça, c'est fonction des expériences successives qui ont façonné notre cerveau. Et ça va impacter de manière très importante la façon dont quelqu'un peut penser une représentation d'un lieu, par exemple. C'est-à-dire que soit on va avoir tendance, parce que ça nous fait plaisir, à retrouver quelque chose de très proche de choses qu'on a expérimentées, qu'on a rencontrées au cours de voyages, au cours d'expériences multiples. Soit on va avoir la tentation de partir complètement à l'opposé. Mais ça reste quelque chose de complètement individuel et ça peut vraiment impacter la façon dont on peut créer à son tour des choses des nouveaux lieux, des nouvelles représentations. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà, en gros c'était ce que je voulais vous dire. Et tout ça, c'est basé dans le cerveau par des associations qui se créent, des vrais chemins qui se créent à l'intérieur du cerveau et où l'énergie circule plus facilement parce qu'ils ont été renforcés par l'utilisation finalement de ces sensations et de leurs associations.
Ok, très bien. Merci beaucoup Nadine pour cette vulgarisation très intéressante du fonctionnement du cerveau et de la mémoire sensorielle. Donc c'est un sujet complexe, on aura probablement l'occasion d'y revenir pendant les questions. Donc on prendra les questions on regroupera les questions du public à la fin, mais si vous le souhaitez, donc je me tourne vers les intervenantes et vers Vincent ici à la table. Vous pouvez réagir les uns les unes les autres aux différents discours.
Donc maintenant, effectivement, on passe à un deuxième temps, le temps des méthodes. On pourra vous demander un petit peu à chacune différentes modalités d'intervention. Alors, Dimitra, par exemple, on a vu avec Nadine que l'élaboration de notre expérience d'un lieu est très dépendante de la perception de tous les éléments qui sont caractéristiques de ce lieu et des interactions avec les autres personnes, puisque là, on a parlé d'enfants, de motricité et d'odeur. Et donc, quand on est sur le terrain, comment est-ce qu'il est possible, pour vous, avec votre expérience, de capter toute la richesse de l'immersion sur le terrain? Non, il faut parler là.
J'ai... Si. Juste là.
Il faut parler juste.
Ah, juste comme ça. Parfait. Alors, déjà, merci beaucoup Nadine, parce que c'était très, très clair. Et on a appris beaucoup de choses de manière très simple. Alors, par rapport à ce qui est intéressant et que là, on a vu une approche en fait de cette histoire de comment en fait l'homme, la femme perçoit l'espace environnant. Et c'est un regard, ce que Nadine a exprimé, un regard de, j'oserais dire, des scientifiques, des sciences exactes, dures, voilà. En même temps, de l'autre côté, dans les milieux, on est tous, il y a tout ce qui est urbanisme, la sociologie, l'anthropologie, qui est depuis déjà des années, très tôt, après-guerre, je dirais dans les années 60, 70, dans un contexte d'intérêt global sur la reconquête des centres historiques, etc., on a commencé à s'intéresser à cette histoire, comment capter en fait la perception de la personne qui marche, pour le dire comme ça simplement, dans la ville ou dans un espace rural. Donc il y a eu ces momentum où en fait toutes ces disciplines ont commencé à s'intéresser à trouver déjà la méthode pour capter ces comportements. Ces comportements qui, pour la biologie, les neurosciences, a un corpus en fait de choses à analyser, mais pour les architectes, ingénieurs, anthropologues, sociologues, c'est encore autre chose, parce qu'il y a toujours cette relation déjà entre les personnes qui sont dans le même espace et la relation avec l'espace tangible, voilà, comme l'espace pratiqué, je pourrais dire. Comment on fait? Alors là, il y a plusieurs méthodes. Ce qui est très... ce qui est très, très compliqué dans un premier temps est de retranscrire en fait quelque chose qui reste en temps réel très flou. C'est-à-dire quand on marche, là c'est un exemple de marche collective dans le cadre d'une mission de concertation. Voilà. C'est un cadre pré-opérationnel. Donc en fait, il y avait un groupe de 40 personnes où en fait, chacun avec son carnet, on a essayé de trouver une manière pour déjà repérer sur une carte les sentiments qu'ils avaient en marchant dans cet espace et en même temps, leur parole d'une manière, hein, parce qu'il y a d'un côté le discours et de l'autre côté il y a les choses que tu fais en marchant dans l'espace. Donc tout ça, ça reste assez flou pour pouvoir les transcrire tout bêtement sur une dimension, un format deux dimensionnel. Mais une méthode, c'est celle de cadrer, de catégoriser, de donner des questions très précises pour que chacun puisse spatialiser finalement, ou en tout cas essayer de spatialiser son émotion, sa perception, son avis, son opinion par rapport à l'espace public, enfin, l'espace de la ville. Donc c'est ça la question de départ, je dirais. On demande à la personne, parce que notre langage commun, le moment où on est dans le lieu, c'est c'est le langage qu'on a, et puis c'est qu'on observe les uns sur les autres. Donc la question qu'on se pose est comment vous spatialisez, enfin, à quel endroit vous aimeriez passer, pour quelles raisons. Donc il y a ce dialogue constant entre je demande à comprendre la perception de quelqu'un, et en même temps, j'essaye de la retranscrire, de la spatialiser sur un format qui est un format commun dans le milieu, enfin, dans le milieu disciplinaire. Oui. Et, l'autre sur les rails, oui, voilà. Après, il y a des fois où ce qui compte beaucoup, c'est l'échange entre les personnes en temps réel, in situ. Là, on était dans le cadre d'une autre mission à Elefsina. C'est une ville à côté d'Athènes, actuellement capitale culturelle, où en fait, on faisait des ateliers avec les habitants qui étaient moins cadrés en termes de méthodes et de retranscriptions en fait de documents. Là, c'était une première expérience. Donc en fait, l'objectif, c'était déjà de libérer, je dirais comme ça, la parole et de titiller, c'est pas très scientifique ce mot, mais je l'ai dit quand même, de déclencher un peu l'interaction entre les personnes. Pourquoi? Parce que c'était un quartier, enfin, c'était une ville avec plusieurs, enfin, un tissu urbain et social très très mixte. Donc en fait, ce que nous on a voulu faire est de déclencher un peu l'interaction entre des personnes qui ne se rencontrent jamais dans d'autres circonstances dans l'espace public. Donc en fait, à travers cette histoire de marche collective, on a essayé de secouer un peu la perception que chacun d'entre eux aurait dans une condition de la semaine quotidienne pendant ce déplacement. Donc c'était un autre type d'expérience où, par rapport à ce que Nadine disait tout à l'heure, dans ce mécanisme très bien rodé, on a essayé d'introduire l'aspect « Ok, qu'est-ce qui se passe quand tu es obligé, entre guillemets, de marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas ?» et de parler pendant des heures avec quelqu'un que tu ne connais pas, dans la ville que tu connais très bien. Donc on faisait des tests, des petits tests comme ça, pour savoir comment finalement, est-ce que la question de départ, c'était est-ce que la perception de la ville qu'on connaît très bien, sens quand on la pratique en accompagnement de quelqu'un d'autre qu'on connaît. Cet intérêt d'interaction en fait avec l'autre corps humain, avec l'autre personne.
L'expérience classique en fait qui se fait aussi en laboratoire où on introduit une perturbation dans un signal et on mesure cette perturbation, ouais. On va l'analyser, on va regarder
exactement
ce qui se passe, et finalement on reconnaît exactement le
même genre de méthode. Voilà, ouais.
Très bien. Merci beaucoup. On va passer maintenant du glisser du terrain réel vers le terrain un peu plus virtuel, donc numérique. Et l'immersion dans un environnement virtuel, ça soulève beaucoup de questions, en particulier la question de la fidélité, de la représentation des perceptions sensorielles. Et donc ici, Michel, est-ce que tu pourrais nous dire comment cet aspect est abordé dans ton travail ?
Alors oui, déjà bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc en fait, je suis en thèse et je travaille sur la perception des ambiances lumineuses dans les outils immersifs tels que les casques de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, on a la fidélité de la restitution de la perception qui se pose et qui est donc importante à étudier aujourd'hui parce que justement, la perception de la lumière, elle est affectée dans les outils immersifs, dans le casque de la réalité virtuelle. Donc, il est important qu'on étudie et qu'on évalue cette fidélité de restitution. Alors, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de limites techniques dans le casque de réalité virtuelle. Comme par exemple, le casque de réalité virtuelle a un dispositif de visualisation qui est standard. Et donc, nous, on travaille avec des images HDR donc, qui sont à haute gamme dynamique. Et lors de la restitution de ces images-là dans le casque, on retrouve des problèmes de compression. Et donc, on a aussi d'autres limites qui sont dues au faible ratio du casque, de dispositif de visualisation. Mais aussi, on a des limites qui sont liées à la luminance du casque. Par exemple, la plupart des casques sont maintenant à 80 candélas par mètre carré, ce qui pose des problèmes d'affichage de phénomènes lumineux, comme par exemple les phénomènes d'éblouissement. On n'arrive pas aujourd'hui à restituer ces phénomènes-là dans les casques de réalité virtuelle, alors que ces phénomènes sont importants à comprendre dans les dispositifs de visualisation. On retrouve d'autres limites techniques, comme par exemple la densité de pixelisation, qui est faible aujourd'hui dans le casque, les problèmes de résolution. Mais aussi, on a une limite au niveau du champ de vision, qui est la plupart du cas à 120 degrés, ce qui n'est pas très suffisant. Puis on a d'autres problèmes, peut-être on est toujours dans la... Puis on a d'autres problèmes qui sont liés aussi au problème de latence entre les mouvements de rotation de la tête et la réponse d'affichage de l'image sur le dispositif de visualisation. Donc aujourd'hui, on retrouve toutes ces limites techniques qui sont difficiles de contrôler. Et donc on se pose la question de la fidélité de perception, de la restitution des images, d'ambiance lumineuse, donc d'environnement éclairé naturellement, dans ces dispositifs numériques immersifs. Donc c'est d'où la question en fait principale de ma thèse, qui est celle en fait d'évaluer la fidélité de perception des environnements lumineux dans les casques de réalité virtuelle. Donc dans la deuxième diapo, juste après, on peut voir que en fait, ce qu'on tente de faire, c'est de capter des photographies d'espaces éclairés naturellement, in situ. Et donc on tend de restituer cette fidélité de la perception de l'ambiance lumineuse dans les outils immersifs. On essaye de trouver donc des moyens, mais aussi des outils immersifs, ou des outils professionnels qui vont nous permettre de restituer cette fidélité de perception. Donc on a plusieurs temps, ou des moyens qu'on va tenter d'utiliser, des méthodes qu'on va tenter d'utiliser pour restituer cette fidélité à travers, par exemple, la calibration colorimétrique in situ lors de la captation de la photo. Puis on va utiliser des outils professionnels comme par exemple une caméra 360 avec plusieurs lentilles fisheye qui va nous permettre donc de prendre une photo 360. Et on va faire une captation à différents temps d'exposition pour pouvoir essayer d'avoir le plus d'informations possible et pour pouvoir constituer en fait une image à haute rangée dynamique. Et puis ensuite, on va essayer de trouver des techniques de traitement pour en fait rétablir les problèmes de restitution de cette image dans les casques de réalité virtuelle, comme par exemple on retrouve dans la littérature des algorithmes qu'on appelle les tone mapping, et du coup qui vont en fait essayer de réduire ou de rétablir cette perte d'information dans le casque de réalité virtuelle. Donc nous, on trouve tous ces moyens, toutes ces méthodes pour essayer de rétablir la fidélité de restitution. Puis ensuite, se pose la question de comment on va évaluer cette fidélité de perception dans le casque de réalité virtuelle. On a recours à des aspects méthodologiques qu'on retrouve dans la littérature. On a des méthodes objectives, des mesures objectives qui vont venir en fait tester l'image. Donc on va évaluer l'image à travers l'évaluation de paramètres tels que l'aspect naturel de l'image ou par exemple les paramètres de luminosité, uniformité, contraste, couleur ou détail ou bruit dans l'image. Donc il y a ces mesures-là. Puis il y a d'autres approches qui sont un peu plus subjectives et qui vont en fait toucher à la perception de l'usager ou de participants. Donc à travers cette approche, on a recours à des enquêtes in situ, à travers des enquêtes et des questionnaires ou des parcours commentés, on touche à la perception et à l'évaluation de l'ambiance lumineuse. Donc à travers cette approche-là, on étudie les impressions subjectives des participants in situ à travers des questionnaires qu'on distribue. Puis ensuite, on refait la même mesure dans le casque de réalité virtuelle à travers la projection de photographies lors de ces enquêtes in situ. Et puis on refait le même test à travers l'évaluation de ces photographies avec les mêmes types de questionnaires qu'on a distribués in situ. Donc le but, c'est en fait de comparer la perception entre le réel et le virtuel pour voir si on arrive à restituer les impressions subjectives liées aux ambiances lumineuses.
Merci pour cette plongée dans le numérique. Effectivement, on a vu que le transfert du réel vers le numérique n'est pas aussi simple que cela. Et si on continue cette plongée dans le numérique, Rima, on voit donc que les développements technologiques nous permettent de ressentir des émotions, des impressions grâce à l'immersion. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on aura comme différence de qualité d'immersion ou de modalité d'immersion entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui est une autre modalité d'immersion?
Oui, effectivement. Donc déjà, merci pour cette opportunité et d'avoir l'opportunité de partager les informations et nos recherches. Effectivement, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont deux technologies qui permettent aux utilisateurs de s'immerger et d'avoir une expérience numérique immersive. Et dans le cadre de mon travail de recherche, j'avais l'occasion d'explorer ces deux mondes et de faire des tests sur ces deux technologies pour bien comprendre cette différence. Déjà conceptuellement, la réalité virtuelle se réfère plutôt à la création d'un monde virtuel, soit d'un environnement ou d'une activité ou bien d'une situation. Et ce monde est créé à l'aide d'un logiciel 3D, donc sur l'ordinateur, et puis nous sommes transportés vers le monde virtuel à l'aide de l'utilisation d'un casque. Et ce monde, donc, comme on a dit, c'est complètement nouveau ou bien complètement restitué. Tandis que la réalité augmentée, elle superpose les éléments virtuels sur le monde réel. Donc elle enrichit ce monde que nous voyons avec des éléments numériques supplémentaires. C'est du point de vue conceptuel. Du point de vue technique, la réalité virtuelle, elle implique l'utilisation, par exemple, d'un casque qui couvre entièrement les yeux et nous offre une vue de 360 degrés. Comme l'utilisateur peut interagir dans ce monde en utilisant les manettes ou les contrôleurs, même il peut utiliser ses mains pour interagir. Et ce passage de la maquette vers cet environnement, c'est exactement ce que j'étais en train de tester, ce passage. Donc il y a Donc j'ai essayé deux méthodes. La première méthode, c'est la plus simple. On connaît tous cette méthode, c'est de connecter simplement le casque par un câble avec un logiciel 3D compatible avec le VR comme le Blender ou Unity, et on sera plongé individuellement dans ce monde. L'autre méthode qu'on a testée avec les étudiants, et c'est très nouveau en fait, c'est de passer par une plateforme. On a utilisé la plateforme spatiale, et l'idée ici, c'était de plonger dans le monde virtuel ensemble. Donc on aura une interaction sociale, c'est ce qu'on a encore présenté durant le Nantes Digital Week ici à Nantes. Et l'idée ici, en fait, cette plateforme, elle est toute récente, et l'utilisation de cette plateforme ici à l'école, elle est récente. L'idée, c'est de s'immerger, et on est dans le monde virtuel, mais chacun avec son avatar. Donc son avatar lui représente, d'où ça pose plusieurs questions sur l'utilisation de l'avatar, sur la représentation du soi. Et donc, en fait, on peut s'immerger à 50 personnes si la version, donc si on a un compte, on peut s'immerger même à 500 personnes en même temps. Et l'idée encore, on peut utiliser les casques pour être dans le monde virtuel, ou même on peut utiliser notre ordi. Donc tu m'envoies une invitation, j'accepte l'invitation et on est ensemble dans cet environnement que tu as créé et que tu peux partager avec les autres. Mais il y a des questions à traiter ici, c'est où sont les limites. Donc on ne peut pas contrôler ces environnements virtuels à une certaine limite, et en même temps les modèles qu'on peut télécharger sont limités à 100 MB. C'est un grand défi, car on travaille sur des environnements vraiment très lourds. Et encore, les questions de la texture qui sont très limitées, car on peut utiliser uniquement les formats en GLB. Et les logiciels de 3D, pas tous les logiciels aujourd'hui font des exports en format GLB. Donc c'est pour la réalité virtuelle. Alors que la réalité augmentée, c'est plutôt différent, car on utilise des dispositifs comme les tablettes, les smartphones, les lunettes. L'idée, c'est de superposer des images ou des informations sur le monde réel. Un exemple d'un dispositif qui travaille sur la réalité augmentée, c'est Corollis. Voilà, exactement. Et donc, je vais donner un exemple, le mapping, sur une maquette en réalité augmentée. Ça implique de superposer, comme on a dit, des images, des vidéos et même des animations sur la maquette physique, ce qui crée une expérience immersive avec l'utilisateur. Voilà, et ce qui est encore important à mentionner, c'est l'influence aujourd'hui de l'intelligence artificielle, donc d'une troisième technologie, dans l'avancement des technologies d'immersion. C'est ce qu'on a vu récemment avec toutes les mises à jour, avec toutes les plateformes, les plugins. Par exemple, dans mon cas, je suis architecte et pas un programmeur, donc j'ai des difficultés un petit peu à travailler sur des scripts, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, j'ai corrigé un script pour passer du Unity vers la technologie d'immersion, et ça a vraiment m'aidé. Donc ça nous aide dans cet avancement. Il y a même d'autres plateformes qui sont... que je suis en train de les tester pour générer des textures sur Blender. Il y a le add-on Stability, et il y a l'autre pour générer des modèles 3D donc ces générateurs des modèles 3D s'appellent le Pointy encore, qui va changer beaucoup de choses dans le travail.
Merci donc pour cette plongée sur les méthodes, alors non seulement au niveau de l'immersion, mais avec l'ajout des technologies d'intelligence artificielle. Alors on a tous vu ChatGPT qui fait irruption dans nos vies, et on le voit aussi, ça arrive dans la conception d'architecture. Merci beaucoup.
Très bien. Donc pour poursuivre, je vous propose de continuer sur les enjeux spécifiques des dispositifs immersifs qui ont été... qui ont été évoquées. Avec une première question pour toi, Michel. Ton travail de thèse s'inscrit dans le projet Persilum, qui affiche un fort enjeu pédagogique lié à l'immersion. Est-ce que tu pourrais détailler cet enjeu, cette approche?
Oui. Donc, et comme je l'ai déjà dit, ma thèse elle est inscrite dans le cadre du projet Persilum, dans la première diapo, ou non, dans la deuxième. Oui, ok. En fait, le projet il porte sur la pédagogie, mais aussi sur la perception des ambiances dans les outils immersifs, qui sont donc numériques et innovants. Et donc, l'un des objectifs de ce projet de recherche, c'est d'offrir à des étudiants architectes des moyens immersifs qui vont leur permettre d'appréhender la lumière naturelle lors de la conception architecturale, mais aussi aux enseignants architectes pour leur offrir ces outils aussi pour qu'ils puissent transmettre certaines notions ou connaissances liées à la lumière naturelle lors de l'enseignement architectural. Et donc, dans ce projet de recherche, on teste différents supports numériques. On a les supports 3D, les images 3D réalistes simulées, mais aussi on teste les images hyperréalistes 360, donc écrits rectangulaires et stéréoscopiques, comme par exemple, on voit dans cette image-là, on a une image écrit rectangulaire qu'on va venir restituer, par exemple, dans les casques de réalité virtuelle. Mais aussi, on teste les murs à haute luminance, qui sont donc dans lesquels on va en fait projeter des images pas 360, mais des images qui vont représenter certaines scènes lumineuses avec des phénomènes d'éblouissement qui sont normalement difficilement projetés dans les casques de réalité virtuelle. On peut tenter de restituer certains phénomènes d'éblouissement dans ces murs à haute luminance. Et donc le but, c'est en fait de transmettre les connaissances liées à la lumière naturelle en fonction des contextes dans tous ces dispositifs immersifs-là. Et donc, dans le cadre de ma thèse, je travaille plus particulièrement sur les casques de réalité virtuelle et sur la projection de ces images 360 écrits rectangulaires stéréoscopiques. Et donc, le but est d'effectuer des captations photos dans des espaces intérieurs éclairés naturellement, sous différentes conditions lumineuses, sous différentes temporalités lumineuses, et donc constituer une base donc, de données et de références et de les projeter à des étudiants architectes pour leur offrir des outils à disposition, des références pour qu'ils puissent... pour que ces références les accompagnent lors de la conception architecturale et donc pour qu'ils puissent aussi visiter virtuellement des lieux qui sont difficilement accessibles aujourd'hui ou lointains et pour qu'ils en fait comparent ces ambiances lumineuses d'une manière successive pour qu'ils puissent tester différentes hypothèses lors de l'affichage de ces images dans le casque de réalité virtuelle. Donc, nous, on travaille avec des images fixes, comme on le voit ici. Donc, on mobilise l'immersion à travers l'affichage de ces images fixes dans le casque. Et donc, l'étudiant, il pourra tourner autour de lui-même à 360 et visualiser ces images-là, qui sont restituées à travers des logiciels de développement, comme par exemple Unity. Et donc, en supplément de ces images-là, le but à la fin, c'est en fait d'ajouter des informations aussi également en termes d'éclairement. Donc, on fait des mesures d'éclairement in situ et donc on transmet ces informations en complément de ces images dans le casque. Donc, on a plusieurs enjeux pédagogiques, comme je l'ai dit. On en a identifié deux qui sont très importants pour la transmission des connaissances en termes d'ambiance lumineuse. Le premier enjeu, il est lié à l'éclairage naturel aujourd'hui. Donc, ce qui est important pour les étudiants, c'est qu'ils comprennent comment on conçoit des espaces de vie de tous les jours ou des espaces quotidiens pour qu'ils comprennent comment on les conçoit, donc d'une manière confortable, en termes de lumière naturelle, éviter certains phénomènes d'éblouissement, etc. Donc il y a ce premier enjeu pédagogique d'espace bien maîtrisé, bien confortable en termes d'ambiance lumineuse. Et puis, on a une autre enjeu pédagogique qui est celui de la restitution de l'expérience sensible vécue liée à l'ambiance lumineuse et qui touche plus aux impressions subjectives et à l'expérience sensible de l'usager. Et donc, ces deux types de transmission, donc de connaissances, ou ces deux types d'enjeux pédagogiques, on va les tester dans le casque. On va tester la restitution des impressions subjectives liées à ces deux enjeux pédagogiques-là dans le casque à travers des méthodes d'enquête in situ, mais aussi à des méthodes d'évaluation dans le casque de réalité virtuelle. Et on a identifié deux types de référence, deux types de lieux qui touchent à ces deux différents enjeux pédagogiques. Donc, comme je l'ai dit, on fait des enquêtes in situ, mais donc dans des lieux ordinaires pour évaluer la transmission des connaissances liées à l'éclairage naturel. Et puis, d'une autre part, on a choisi la piste des lieux remarquables, c'est-à-dire que ces lieux sont des architectures célèbres qui sont construites par des architectures qui sont remarquables, construites par des architectes célèbres, comme par exemple Tadao Ando, Jean Nouvel ou Le Corbusier. Et donc à travers ces lieux-là, on évalue l'expérience sensible vécue de l'usager, parce que ces lieux sont la plupart du temps impressionnants. C'est des lieux qui sont forts en termes d'impression subjective et d'ambiance lumineuse. Voilà.
Ok, merci beaucoup Michel. Donc finalement, en fait, c'est une manière de multiplier les canaux d'apprentissage que tu proposes, avec à la fois une expérience sensorielle et visuelle, et en parallèle à ça, des informations plus théoriques, plus techniques, avec, comme tu le disais, l'affichage des informations techniques liées à la lumière, des paramètres quantitatifs, disons, donc une manière de faire le lien comme ça pour les étudiants, d'associer le visuel à la quantification. Et donc c'est vrai que on peut penser que cette multiplication des canaux pourra aider à l'apprentissage et à la compréhension. D'ailleurs, Nadine, est-ce que c'est effectivement le cas quand on multiplie comme ça les canaux d'apprentissage ou de compréhension, que ce soit sensoriel, théorique, conceptuel, technique? Est-ce que ça augmente les chances d'assimilation d'un savoir? Je ne sais pas si Nadine, vous êtes encore avec nous.
Oui, je suis avec vous. Simplement, tout ce qui peut... je pense que plus on multiplie les canaux, surtout qu'a priori, on ne sait pas quels sont les canaux préférentiels, et on a tous des canaux préférentiels par rapport à la perception sensorielle. Donc je pense que c'est effectivement une très bonne idée de multiplier les canaux, multiplier les informations, et pour augmenter le sentiment d'immersion. Et ça passe par un apprentissage quand même. C'est-à-dire que on a mesuré la façon dont les gens s'immergeaient dans les environnements virtuels, et ça passe vraiment par un apprentissage. Donc c'est important d'avoir cette période d'adaptation finalement du cerveau à cette forme de stimulation.
D'accord, très bien. Merci Nadine. On va poursuivre avec toi Rima, toujours sur les enjeux. Alors finalement, de quelle manière un outil comme Corolis pourrait aider l'architecte dans son travail de conception? Comment cet outil finalement pourra changer la manière de concevoir le projet d'architecture et d'urbanisme?
Ouais, donc Corolis, donc je vais présenter un petit peu Corolis pour tout ce qui est connaît pas le dispositif. Donc déjà, Coralis, c'est l'acronyme de Centre d'observation en réalité augmentée et lieu d'immersion sonore. C'est un mode d'immersion à 360 degrés dans l'image et le son. Donc le système du son est composé de 32 enceintes larges bandes distribuées entre le plafond, la passerelle et le plateau de travail. Le dispositif, il a été créé ici à l'école, à l'ENSA de Nantes, par des enseignants et des étudiants de l'école. Et il s'adresse à la fois aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, qui s'intéresse au projet architectural, exactement, ou urbain, qui s'intéresse même à l'expérience sensible des environnements construits, donc s'intéresse à des nouvelles axes pédagogiques, aux articulations entre art et sciences, etc. Donc il y a plusieurs objectifs. Donc un outil comme Coralis, il regroupe ce qu'on a présenté maintenant, les deux technologies de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et peut avoir un impact considérable sur la conception, sur le travail de la conception, car il offre de nouvelles façons de visualiser et d'interagir avec les projets. Donc tout d'abord, tout comme les outils de la réalité virtuelle, Coralis permet de s'immerger et de se promener dans le monde virtuel qu'on a conçu, qu'on a créé. Et à ce niveau-là, il peut ainsi nous aider à mieux comprendre l'échelle, les proportions et les volumes des bâtiments. Et ce qui peut aider en fait à évaluer l'impact des choix de conception sur l'expérience utilisateur. Et de plus, il permet également de tester des options de conception en temps réel. Donc, ensuite, il y a la partie de la réalité augmentée, justement avec le mapping. Le dispositif donc va projeter des informations supplémentaires numériques sur la maquette physique à l'intérieur du Coralis, ce qui peut être utile pour la visualisation des projets en temps réel. Donc, dans l'ensemble, Coralis est une combinaison des deux technologies. Deux technologies en fait innovantes qui permettent de concevoir un projet de manière plus précise, tout en offrant de nouvelles façons d'interagir avec le projet, et nous offrent de nouvelles façons de penser et d'agir, tout en stimulant la créativité ou bien la réflexion. En fait, il y a d'autre part, il y avait une visite des pompiers, ils ont visité le Coralis. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le dispositif, il est adressé également aux professionnels de la ville, et il permet de pratiquer et de développer notre intuition. Donc il y a beaucoup des axes à tester et à voir. Donc, par exemple, si nous l'utilisons pour simuler des situations de prise de décision dans un environnement professionnel, nous pourrions être mieux préparés en fait à prendre des décisions plus intuitives et efficaces dans le monde réel. Et à cette occasion, nous présentons dans Coralis toute la journée un exemple de faire exprimer une ambiance en utilisant les nuages de points qui a été faite à la base de la photogrammétrie, et ce qui donne une dimension abstraite au récit. Donc c'est une vidéo de 4 minutes, un travail réalisé par Théo German dans le cadre de son cursus à l'école. Et donc il s'agit d'un voyage sur la Loire qui est porté par le vent. Donc la vidéo sera lancée toute la journée dans Coralis.
D'accord. Merci Rima. Donc on pourra voir ça pendant l'exposition, oui. Pendant la pause,
oui.
Déjeuner.
Et
effectivement, une dimension supplémentaire de Coralis, c'est qu'on y entre avec son corps tout entier.
Oui.
Et donc ça,
exactement.
C'est aussi quelque chose d'assez puissant avec cet outil-là.
Exactement. Et c'est la différence en fait entre Coralis et la casque de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on est plongé ou bien individuellement ou bien suite à un avatar, alors que dans Coralis, on est tous ensemble, on peut être ensemble et interagir ensemble dans un monde virtuel. Donc c'est un plus en fait. Ouais.
Merci Rima.
Et donc, effectivement, pour poursuivre cette référence au corps qui est en interaction avec les mondes virtuels, on va revenir maintenant sur le monde réel. Donc, on va sortir de notre immersion dans les mondes virtuels. Et Dimitra, si tu le permets, est-ce que tu pourrais nous expliquer la relation assez forte qu'il peut y avoir au corps dans les traversées des espaces, dans les expériences urbaines que tu proposes aux participants, parce que visiblement il y a un engagement très fort qui se fait par le biais de notre senseur et de notre perception spatiale.
Oui, tout à fait. C'est intéressant de prendre la parole suite à toutes ces présentations très intéressantes, parce que là, dans le cadre de missions que nous on fait dans un contexte de concertation en fait, de participation citoyenne, le corps est le principal. Enfin, c'est, pour le dire autrement, notre clé d'entrée dans ce monde. C'est la manière avec laquelle on accepte notre existence dans ce monde, la manière avec laquelle on comprend où on est par rapport à notre voisin, et la manière avec laquelle on évalue constamment ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un médium très très fort par rapport à cette lecture qui est à la fois personnelle mais aussi collective, sociétale, de ce monde. Donc c'est l'importance d'être dans le terrain en temps réel pendant cet effort de lire le terrain autrement, de comprendre le terrain autrement et de partager aussi l'expérience, et se base sur le fait de explorer finalement une réalité qui peut être analysée de manière quantitative, scientifique ou à travers plusieurs chemins, mais qui reste toujours un point insaisissable, j'oserais dire. Il y a des choses qu'en étant dans les lieux, en amont par exemple là dans cette mission, les habitants étaient très informés des enjeux avec des cartes. Il y a eu un travail cartographique en amont où on a repéré tous les problèmes du site. Et pourtant, enfin, donc chacun exprimait son avis en amont, et pourtant, en arrivant dans les lieux et en partageant l'expérience en temps réel dans ces lieux-là, il y avait d'autres choses qui ont été exprimées. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui échappe, en fait, d'une analyse qu'on fait ex situ ou à travers d'autres moyens, en fait, de captation de l'espace urbain. Urbain ou enfin de notre environnement. Donc ça c'est par rapport à l'importance du corps qui est une machine de technicité, mais en même temps c'est un médium qui condense des choses qui ne sont pas mesurables aussi parfois. J'ai dit ça parce que bien sûr on peut très bien dans ces lieux-là, on examinait un quartier, il y avait plusieurs problèmes de lieux. De lieux non accessibles et de lieux en fait qui provoquaient un peu la peur en fait aux habitants. Et pourtant cette journée ensoleillée, en étant tous ensemble dehors, avec le corps qui ressent la chaleur de la lumière naturelle directement sur la chair. Et puis la vision qui regarde à travers un ami voisin le même paysage que tu regardes tous les jours différemment. Les opinions sur ce même environnement étaient différentes par rapport à ce que les habitants disaient en salle, ex situ. Et ça, nous, en tant qu'équipe d'archi urbaniste, ça nous a beaucoup interpellés, en fait. Sur cette carte-là, pareil, on a utilisé, enfin, on travaille en tandem, ex situ, on a montré une carte où on a demandé à chacun de poser les endroits qui font peur. Et en étant dehors et en traversant ce lieu, en faisant ce même exercice pendant une journée ensoleillée où en fait on était tous ensemble, il y avait une ambiance et les concepteurs entre guillemets étaient aussi sur le terrain, tout d'un coup il y a eu un basculement en fait de certains endroits, pas tout, mais de certains endroits, il y a eu un enrichissement, je dirais, de cette évaluation en fait de notre espace environnement. Et puis il y a aussi le... Oui, enfin, je ne sais pas si je peux continuer, j'ai le temps, non ?
Oui, bien sûr.
OK. et puis là, c'est un autre exemple enfin, ça date un peu, c'est en 2015 quand je suis tenue ma thèse, où en fait à l'époque, dans les centres historiques d'Athènes, je suis partie avec cette même question, comment en fait retranscrire l'expérience d'un habitant et son évaluation de l'espace public athénien, comment le retranscrire moi en tant que chercheuse sur un médium qui peut être communicable avec d'autres collègues, etc. Et qui peut, en tout cas, transmettre une expérience qu'il y a eu à Athènes et qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ce que nous, on a partagé au temps réel avec la parole seulement. Donc, j'ai trouvé un système qui n'est pas très réussi, mais à l'époque, voilà, c'était le système que j'ai trouvé en catégorisant. Enfin, il y avait, c'était des marches que je faisais avec les habitants à Athènes. Donc, j'enregistrais toute la durée de la marche, 1h30, toute la parole. Et après, ex situ, je faisais la retranscription de toute la parole, en fait, et les discours de cette personne, ses commentaires, les lions traversés, etc. Et je faisais des catégories, j'essayais de faire des catégories, en fait, de commentaires sur la mémoire collective, la ville, l'espace public, problème de circulation. Chaque famille de commentaires avait une couleur. Et comme ça, après, il y avait cette production de ces fils qui était notre trajectoire commune avec toutes ces différentes séquences, finalement, de couleurs qui renvoyaient à une famille de commentaires de la personne. Ce qui m'a permis, après, à la fin, de superposer tous les fils des habitants et de découvrir qu'à certains endroits, dans les centres historiques, tous les commentaires devenaient rouges. Parce que là, il y avait un problème qui était peut-être commun. Ou qu'à d'autres endroits, il y avait des commentaires qui renvoyaient à la paire, à l'insécurité, etc. Sur une autre personne, c'était complètement différent. Donc, il y avait un lieu qui, en tout cas, pour les aménagères, ça nous interpellait, en fait. Donc, il y a, voilà, ces deux choses qui, enfin, le corps, ça nous permet aussi d'avoir ça, je dirais, je finis avec ça, que de rester honnête, si j'oserais dire, par rapport à notre existence dans ce monde-là. Parce qu'on a notre cerveau qui devient de plus en plus, enfin, qui essaye, en tout cas, la société, c'est tout un contexte, de plus en plus rationnel, cartésien, scientifique. Et en même temps, il y a ce que Nadine disait au tout début, comment on appelle cette partie-là reptilien, enfin, je ne me rappelle plus Nadine. Voilà, on a quand même quelque chose, pardon, je ne vous écoute pas, bref, on a quelque chose qui échappe en fait de tous ces cadrages qu'on essaye de faire aujourd'hui, avec toutes ces multiplications de moyens qu'on invente pour mieux comprendre, mieux mesurer, mieux analyser l'espace urbain, et pourtant, on découvre qu'on sort, on enlève nos chaussures, on marche sur la même pelouse ou sur l'asphalte. Et cette sensation-là, moi, en tant que chercheuse, avec mes tableaux Excel et tout, j'arriverai jamais à la communiquer, en fait, ni aux habitants, ni à mes collègues, etc. Donc, je pense que voilà, il y a cet aspect qui, pour moi, reste le plus intriguant, en fait, dans cette histoire de corporéité.
Merci. Et effectivement, ça expose un peu les limites des approches qu'on a vues ce matin, des plongées. Et même donc sur le terrain réel, il est difficile de tout restituer, il est difficile de tout saisir, de tout capter et de tout analyser. Et heureusement, parce que ça nous fait beaucoup de questions, de recherches à creuser. Et pour terminer notre immersion aujourd'hui, Nadine, on a vu différentes méthodes d'immersion, donc dans des mises en situation avec le réel, dans des environnements numériques ou dans des combinaisons des deux. Et donc, pour faire une référence à ce qui va nous rester aussi de cette journée d'aujourd'hui, comment est-ce que notre cerveau fait la part des choses entre les mémoires de ces diverses expériences, qu'ils soient réelles, virtuelles, et comment le cerveau arrive à organiser finalement toute cette mémoire?
Alors, si vous me permettez, je voudrais juste rebondir sur le...
Bien sûr.
Sur ce que vient de dire Dimitra, c'est ça? Parce que vraiment, je me sens complètement en phase avec ça. C'est-à-dire que les études sur le cerveau ont ignoré pendant très longtemps deux choses très importantes. C'est l'incarnation de ce qui se passe. Donc, on a beaucoup travaillé sur la navigation, sur le repérage dans l'espace, mais pas vraiment... Finalement, on a un peu ignoré ce que notre corps pouvait mémoriser et ce que ça, comment ça pouvait modifier notre mémoire. Et la deuxième chose, c'est la cognition sociale. Et en fait, ces deux éléments, c'est-à-dire l'incarnation de l'immersion, la partie incarnée d'immersion et la partie cognition sociale, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut absolument qu'on étudie le fonctionnement du cerveau dans une situation réelle. Alors, la contrepartie de ça, et ce qui nous a fait aller finalement vers des choses beaucoup plus contrôlées, etc., c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Donc, du coup, on a un petit peu de mal à savoir ce qui est perçu, puisque chacun perçoit à sa manière, de manière très individuelle. Donc, on essaye de faire des environnements... On essaye de faire des environnements virtuels de plus en plus sophistiqués et de plus en plus complets pour augmenter, finalement, la réalité de ces environnements.
S'il vous plaît, coupez vos micros là. Merci.
Donc, par exemple, je voulais juste vous dire que aujourd'hui, il y a des gens comme, je pense à Pascal Piolino, par exemple, à Paris, qui travaille beaucoup sur la mémoire dans des environnements virtuels. Elle peut même équiper des. Elle a fait une modélisation de ce qui se passe sur le quai du métro à Paris. Et du fait que les gens, pour reproduire le fait, la sensation finalement des gens qui vous frôlent sur un quai qui est bondé, elle a fait porter des combinaisons au sujet. Donc ils sont dans un espace de réalité virtuelle, mais ils ont cette stimulation du corps avec des pressions qui reproduisent un petit peu ce qui se passe quand les gens les frôlent ou même quand les gens se collent à eux, quoi. Donc je pense que notre cerveau fait la... Avec tout ce qui a été dit, aussi bien par Dimitra que ce que je vous ai présenté moi, l'immersion, qu'elle soit totale, il faut vraiment que le cerveau ne puisse plus faire la différence, ne se voit pas comme de l'extérieur dans une situation. Donc il faut augmenter ce sentiment de présence. Alors c'est ce qu'on fait de plus en plus, et ce qui a été présenté, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Mais ça passe encore une fois, tout à l'heure je l'ai dit, je me répète un peu, mais c'est important, on s'est aperçu que pour les expériences de réalité virtuelle, il faut vraiment une période d'adaptation, une période d'apprentissage pour que ça marche bien. Et il faut aussi augmenter l'incarnation, c'est-à-dire qu'on ait vraiment l'impression qu'on est acteur dans cet environnement et qu'on peut rencontrer des gens. Et dans ce que disait Dimitra, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ma perception et la perception de mon voisin peuvent être complètement différents parce que notre cerveau a été façonné de façon différente. Et c'est cet échange qui va me permettre à moi de voir des choses que je n'aurais pas vues autrement, que je n'aurais pas perçues. Et donc, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, l'immense avantage de la stimulation ou de la réalité augmentée, c'est de pouvoir manipuler l'environnement pour voir dans quel sens va la perception. C'est-à-dire qu'on peut rendre un élément plus saillant, on peut faire varier les paramètres tout en ayant le contrôle sur cette situation, ce qui est évidemment impossible. On ne peut pas contrôler la chaleur du soleil sur notre peau quand on déambule dans un environnement. Mais voilà, les deux sont... À mon avis, les deux sont absolument nécessaires, mais il faut savoir que le cerveau, on ne le trompe pas comme ça. Il fait toujours un peu la différence entre la réalité et le virtuel. Mais il y a des résultats qui sont spectaculaires quand même et qui sont liés à ces environnements de mieux en mieux conçus, je dirais, qui prennent en compte de plus en plus de facteurs. Voilà.
Merci beaucoup Nadine. Donc on peut avoir des questions du public. On a quelques minutes si vous voulez, si vous êtes sorti de votre immersion, si vous voulez revenir vers le monde réel, vous pouvez.
Pascal a une question.
Il y a des questions. En commençant par là.
J'aimerais d'abord vous remercier.
On va retranscrire la question. Tu nous dis puis on retranscrit.
Ah, comme tu veux, il faut le micro, c'est ça?
Non, et le micro, c'est ça.
Il faut s'approcher du petit micro rond qui est...
Donc tu le dis et je vais redire.
Soit
ou alors tu dépasses, tu finis.
Ça complique un peu.
Sinon, on fait un truc avec une traduction.
Mais il se bouge pas. Non, celui-là, c'est pas possible.
Non. Pourquoi?
parce qu'ils entendent rien à distance, ça parasite complètement.
On peut retranscrire la question. Bon, voilà. Tu te déplaces. Si bien.
Mais si tu viens, viens. Ah,
je me mets là, ça va.
Il faut qu'elle comprenne.
C'est vous, votre truc. Non, mais je voulais d'abord vous remercier de l'organisation de cette table ronde qui, par rapport à moi, vieux papa du Cresson, etc., je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, pour une fois, il y a une vraie confrontation entre des travaux qui sont vraiment des travaux de recherche, de technologie, etc., et puis des travaux qui sont du côté de l'urbanisme, de l'anthropologie, etc., etc. Et donc, il y a une vraie confrontation. Et c'est une chose qu'on ne réussit pas à faire dans notre équipe, je veux dire, fortement, à mon avis, pas du tout assez, pour entrer en débat sur les différents épistémologiques qu'il y a entre les champs des sciences sociales, en gros, et les champs des sciences techniques. Alors, bon, ça, c'est une première remarque, et moi, j'encourage, je trouve, de ce point de vue-là, Rachel, réussite magnifique.
Alors, on n'a pas de sujet. Ce n'est pas moi, très honnêtement.
Non, moi je veux dire.
Je renvoie le compliment à l'équipe de coordination.
Oui.
Parce que je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été un énorme travail de coordination. Voilà, je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, donc je renvoie, je n'y suis pour rien.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie hybridation à ce titre-là, je trouve que je tiens à en rendre hommage. Après, il y a 10 000 questions. Sur les définitions des choses. Et moi, j'ai une espèce d'hypothèse qui me vient comme ça, où en fait, vous avez dit de façon très clairement, très claire, que voilà, dans ces technologies d'immersion, il y a un peu trois niveaux qui sont un peu historiques, quoi. La dimension de la réalisation virtuelle, la réalité augmentée, et puis aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Alors, j'ai presque envie de dire réalité intelligente. Et puis, peut-être on va glisser à l'intelligence de la réalité, etc. Et ce qui m'intéresse beaucoup, alors moi qui suis plutôt imprégné, j'ai un petit passé technique, mais de sciences sociales, de pratiques, de conception architecturale, etc., c'est l'idée d'augmentation de la réalité, mais pas au sens de la réalité augmentée, mais au sens de l'augmentation du degré de réalité des choses, qui touche aussi bien le champ des recherches techniques que le champ anthropologique. Parce que lorsqu'on fait des marches et qu'on fait parler les gens ensemble pour réagir sur leur perception, etc., on dégage des effets sensibles pour les travaux que nous on a fait au Cresson, etc., à partir de ces marches. Et où l'on ne sait pas si c'est le collectif, la perception individuelle, etc., on est en train d'inventer des techniques pour augmenter le degré de réalité de la perception des gens, etc. Et je crois beaucoup à cette idée-là, qui est cher aussi à des gens comme Claude Cadoz, qui avait, c'est chez lui que j'avais trouvé cette notion, son premier petit bouquin sur la réalité, les réalités virtuelles, je crois que ça s'appelait il y a fort longtemps. Et alors je me dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle ça des technologies d'immersion, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est comment est-ce que ça devient des technologies d'immersion, c'est-à-dire des façons de se distancier ou de créer un paradoxe entre la plongée immersive dans un processus de perception et un mode de représentation, de fabrication d'une intelligence nouvelle, etc. Et première question, est-ce que ces technologies d'immersion, finalement, ne devraient pas être présentées comme des technologies d'immersion? Et puis, il y a plein d'autres choses à dire, mais moi, je pense que ce qui est intéressant aussi dans la relation les deux, c'est de, à partir des travaux qu'on fait plutôt par des technologies de marche et des choses comme ça, c'est comment ce que ces outils numériques peuvent être utilisés comme des instruments d'expression, en l'occurrence dans le passage au projet, quoi, donc d'expression de quelque chose, plus que de représentation. Et par exemple, je sens une tension entre le souci de la question de la fidélité de la perception, qui pour nous, du côté des sciences sociales, est quelque chose qui est entre guillemets naïf, c'est-à-dire que parce que il y a pas de perception réelle, le référent n'existe pas physiquement, l'imaginaire est toujours là, et à ce titre-là, dans l'expérience vécue, il y a toujours eu du virtuel, l'espace virtuel a toujours existé, c'est justement tout la dimension imaginaire que, collective, etc. Toute la phénoménologie, ça fait 100 ans que la réalité virtuelle existe, bien avant qu'on l'invente technologiquement, et je trouve que c'est important et intéressant d'essayer de mettre ces choses en tension, puisqu'on a des outils techniques maintenant qui disent 100 ans plus tard ce que la phénoménologie a dit philosophiquement, et peut-être bien autrement. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus long, mais je trouve ce que je ressens en extérieur à ces recherches-là, une espèce d'obsession un peu naturelle de la fidélité d'un référent qui, de notre point de vue, est complètement fictionnel et imaginaire, a par contre un usage au titre d'expression de quelque chose qui est complètement compétent, mais où ça fait un outil plus par rapport à un autre outil qu'on peut continuer à utiliser.
Merci. Donc sur la question de l'émergence, donc l'immersion, pardon. Est-ce qu'une des intervenantes veut prendre la parole ? Donc c'est plutôt là, c'était posé comme étant les outils d'immersion plutôt comme les outils d'émersion, donc pour se rendre compte de certaines choses du réel et pour nous sortir finalement de notre immersion du réel et nous plonger dans un autre type d'immersion, dans un monde qui serait donc pas forcément le réel. Si je traduis.
Ouais.
Globalement.
Non. Oui. Tu m'as expliqué immersion.
Immersion, c'est pour dire que ça fait émerger quelque chose.
Ouais.
Ça fait se rendre compte d'éléments dont on ne se rend pas compte, en fait, dans le monde réel.
Plutôt que de plonger, c'est sortir.
Voilà, c'est sortir de quelque chose plutôt que de plonger dans quelque chose.
Ouais. Effectivement, donc c'est le même débat de restituer, en fait, le réel, l'idée de restituer le réel. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est avec tous ces outils, toutes ces performances techniques, peut-être l'idée plutôt c'est de chercher comment on peut exprimer. Donc on cherche toujours à copier le réel. Mais aujourd'hui, on peut aller plus loin à exprimer, à utiliser les outils numériques d'une façon imaginaire pour dire quelque chose, pour partager une information ou bien une sensation d'une manière la plus, comment dire, parlante ou la plus vraiment facile à d'être compréhensible. Donc, c'est oui, donc les outils numériques, il y a beaucoup de questions à se poser, comment on peut les utiliser aujourd'hui pour aller dans cet axe de créativité, en fait.
Ouais. Merci, Rima. D'autres questions ? Je crois qu'Abdelkader, tu avais une question.
En fait, la présentation qu'elle a fait, madame Nathalie Harret, sur le fonctionnement du cerveau en termes d'apprentissage, en termes de réseau de neurones, en termes de pondération, en termes de calibre, qui est un extrême évolution, dans quelle mesure tout ça c'est transposable. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on trouve les mêmes termes pratiquement. Est-ce qu'il y a plutôt c'est de la métaphore entre les deux, ou vraiment dans quelle mesure sont superposables les deux notions?
Nadine, vous avez entendu la.
Alors, la question, c'est est-ce que tout ce qu'on a appris, finalement, tout ce dont je vous ai parlé, cette coopération entre les différentes aires, les différentes sensorialités, est-ce que c'est transposable dans la mise en place d'outils de réalité virtuelle, c'est ça ?
Non, plutôt d'intelligence artificielle, lorsqu'on parle de
l'intelligence artificielle.
Lorsqu'on parle de réseau de neurones, pratiquement ce que vous avez présenté, un certain nombre de notions, on trouve pratiquement les mêmes de l'autre côté. Donc, dans quelle mesure, entre le fonctionnement biologique, naturel et artificiel, plutôt c'est de la. Quel est le degré de similitude, voilà, si on peut dire les choses.
Alors, je pense qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est moins dans la simulation de ce qui se passe. On est plus dans, justement, on prend les principes de fonctionnement du cerveau. Donc, cette histoire de réseaux de neurones qui sont susceptibles de modifier leur connexion sous l'influence d'une immersion dans un milieu. Et ce qu'on a ajouté, et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est finalement l'absence de supervision, c'est-à-dire que ces systèmes sont capables eux-mêmes d'apprendre de leurs propres expériences et de créer, de se modifier du fait de ces expériences. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'intelligence artificielle, si par exemple, je vais vous donner un exemple, on fait des expériences, nous, et on cherche à comment les analyser, et on utilise un système d'intelligence artificielle d'analyse d'image, et en fait, il nous propose des choses qu'on n'avait pas vues et qui sont très pertinentes. Alors, on lui fait regarder des milliers de séquences comportementales de vidéos, et lui, il modifie son fonctionnement et il attire notre attention sur des choses qui sont très intéressantes. Alors, ce n'est pas complètement superposable, mais on peut extraire les principes et les transférer dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui. Très bien. Merci Nadine. On clôture, on prend une dernière question peut-être.
Question, en fait, sur le Zoom.
Oui, j'ai vu qu'il y avait des... Oui. Pendant que j'ouvre le chat, Rachel, tu veux poser une question?
Vas-y, sur le chat d'abord.
Alors, une question un peu abstraite, mais je me demandais à quoi pourrait ressembler un espace urbain dans lequel une plus grande pluralité de perceptions pourrait coexister. Est-ce qu'il y a eu des recherches là-dessus?
Oui, au créneau, on a fait ça en simulant les ambiances urbaines physiques, en virtuel. Mais pas énormément de pluralité de perception, ce sens-là, visuel et tactile. Ça.
Il y a eu des tests avec des chauffages qui étaient installés pour changer la partie radiative, thermique.
Oui.
Myriam évoque la partie ventilateur, pour la partie tactile, aérolique. Donc oui, il y a des expériences, ça existe et il y a des tas d'équipes en fait à travers le monde qui essayent des tas de modalités sensorielles différentes. Oui. Et on a vu aussi la partie odeur qui est venue.
Et qui est explorée en réalité virtuelle. Mais pas dans les laboratoires et pas forcément dans les espaces urbains. C'est une partie
des
modalités qui sont étudiées.
Ok. Et donc Aurélie, est-ce qu'on pourrait imaginer ajouter d'autres dimensions que celles visuelles et sonores qui sont actuellement mobilisées?
Bon, à tester, à voir, mais tout à fait, bien sûr, avec tout ça, on peut... C'est ça l'idée, c'est aller dans la créativité pour exprimer une ambiance, donc pour partager cette ambiance avec les autres, on peut tester. Il y a plusieurs choix à faire, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui à tester et à voir.
Ok.
Par rapport aux odeurs, juste si je peux me permettre, c'est un sens qui est très difficile à maîtriser, un stimulus plutôt qui est très difficile à maîtriser. Les expériences en réalité virtuelle où on introduit des odeurs, le problème c'est que c'est pas comme une lumière qu'on éteint et qu'on supprime une odeur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a lâchée, elle est dans l'air et elle vit sa vie. Donc c'est parfois difficile d'arriver à faire quelque chose qui marche bien en introduisant des odeurs, sans que ça soit cacophonique ou pas très concluant.
Donc en fait, la deuxième remarque est une réponse à la question aussi.
Rachel, tu souhaitais réagir à ce que...
Oui, je voudrais vraiment vous remercier cette première table ronde. Je surenchéris sur ce que disait Pascal aujourd'hui, parce que peut-être qu'on est en train de rentrer là en vous écoutant dans une piste qui est extrêmement importante pour nous. On a quand même un enjeu de mieux dialoguer entre nous au sein du laboratoire sur ce qui se fait en réalité virtuelle, en réalité augmentée, et ce qui peut se faire par ailleurs dans des démarches qui empruntent davantage à l'ethnographie, ou en tout cas des démarches qualitatives. Et il me semble que vous avez utilisé un terme, Madame Ravel, tout à l'heure, sur lequel on pourrait peut-être collectivement travailler, qui est le terme ou la notion de sentiment de présence. Et je me demande si on n'a pas comme ça des entrées à mettre sur la table entre nous, sentiment de présence, les effets potentiels que ce sentiment de présence peut induire dans la perception qu'on peut avoir des environnements. Moi, je pensais à une autre notion qu'on utilise, qui est la notion d'état de corps, qui, à mon avis, est probablement des choses qui peuvent résonner comme ça entre les disciplines, et qui aurait peut-être un chantier à ouvrir comme ça, en se mettant autour de la table, autour de deux ou trois notions, en essayant de creuser comment ces notions-là peuvent nous permettre de dialoguer mieux ensemble, avec nos différentes perspectives disciplinaires. Voilà, c'était juste...
Je trouve ça très intéressant, hein, personnellement, donc contente aussi.
Merci. Merci à la réponse donc d'Emma Vidarem à Cécile Poulain. Donc il y a une discussion qui s'engage sur le chat, c'est très très bien aussi. Dans la salle aussi. On vous remercie. Yannick, à toi le mot de la fin.
Oui, je vous propose de clôturer cette première table ronde en remerciant nos quatre participants. Dimitra, Emma, Michel.